Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Et bonjour à tous, donc bienvenue dans RTL Midi, édition spéciale bien sûr après ce premier tour de la présidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30, 2 heures d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec vous. Les auditeurs, on vous attend dès 13h au 32-10. Avant cela, l'info avec Amandine Bégaud que je suis heureux de retrouver. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, plaisir partagé. Ravi de vous retrouver ici. Bonjour à tous. À la une, cette campagne d'entre-deux-tours qui est déjà sur les rails. Emmanuel Macron est dans le Nord, Marine Le Pen, elle est attendue dans Lyon cet après-midi. Vous entendrez aussi l'appel à l'aide de Valérie Pécresse. Et puis c'est l'une des inconnues de ce deuxième tour. Que vont faire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon? On vous emmène à Saint-Denis où le candidat de la France Insoumise a recueilli hier plus de 60% des voix.
Retour sur les résultats d'hier à partir de 12h40. Les records, mais aussi les pires scores. RTL Midi vous emmène dans les entrailles du scrutin. Et à 12h50, on se demandera si Marine Le Pen peut l'emporter.
Notre question du jour sur RTL.fr. Les consignes de vote peuvent-elles vous influencer? Vous dites massivement non à 93%. La météo, c'est avec vous Louis Baudin. Bonjour Louis.
Bonjour Amandine.
Revoilà le printemps.
Exactement, avec le vent de sud qui s'installe sur la France. Vent d'autant, en revanche, sur la région toulousaine, on atteindra probablement les 100 km/h cet après-midi. Déjà 90 à Carcassonne ou encore à Toulouse. Mais ce vent de sud, effectivement, apporte de la douceur. 18 à 23 degrés cet après-midi, quelle que soit la région. Tout ça avec beaucoup de soleil. Parfois un petit voile nuageux sans grandes conséquences. Un peu plus de nuages quand même dans le Languedoc-Roussillon ou encore du côté de la Bretagne.
Merci Louis, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer, donc, on part pour Denain dans le Nord. C'est là qu'Emmanuel Macron a choisi de faire son tout premier déplacement pour cette campagne d'entre-deux-tours. William Galibert, vous êtes sur place pour RTL.
Oui, Amandine, beaucoup de monde, des gens agglutinés derrière des barrières métalliques, des curieux aux terrasses, des cafés et aux fenêtres. Mais quand Emmanuel Macron a bondi de sa voiture il y a un quart d'heure, rien. Ou trois fois rien, quelques applaudissements, quelques sifflets et le silence. Silence qui règne toujours ici. Le candidat a compris qu'il allait falloir passer du temps, serrer des mains et même un peu plus que ça pour réchauffer l'ambiance.
Et oui, car cette commune de Denain, 20 000 habitants, n'a pas été choisie au hasard. C'est l'une des villes les plus pauvres de France et hier, les électeurs ont massivement voté Marine Le Pen à plus de 41%, 28,6% pour Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron y recueille 14,7% des suffrages. Bref, le président sortant est loin, très loin même, d'être en terrain conquis, Franck Hanson.
Oui, en effet, ici sur le parvis de l'hôtel de ville, on sent qu'il va devoir user de tout son charme, le président candidat, pour convaincre ses habitants dans cette cité ouvrière, l'une des plus pauvres de France. Ses 5 ans au pouvoir ont laissé des traces.
Macron, pour moi, il a fait son temps, il n'a pas fait ses preuves. À Denain, ici, en plus, il n'est pas trop aimé, il ne fait pas trop de choses pour les jeunes. Je vais voter Marine, je pense.
Moi, ça choque pas qu'on revient sur Denain, je ne suis pas enchanté. Déçu, oui, il faut que la France bouge. Il était trop sous le dos des pauvres.
Des nordistes qui se sont sentis en fait un peu oubliés par Emmanuel Macron sur le front de la guerre en Ukraine ou occupés à gérer la crise sanitaire. Dans sa boulangerie en face de l'hôtel de ville, Rudy estime qu'il est déjà trop tard.
Je pense que c'est bien, après il essaie de se montrer pour sa campagne quoi. Mais bon voilà, après en ce moment avec ce qui se passe à l'étranger, il devrait pas trop s'en mêler, il devrait plus se mêler de nous. Moi je voterai Le Pen, je le cache pas, ouais. Parce que son plan il est bien, elle a un bon programme, après pourquoi pas lui laisser une chance.
La maire socialiste de Denain, prévenue en catastrophe, accueille ce midi le président Macron, son candidat. Même si rien n'est joué, dit-elle, elle défend aussi un bilan qui lui a permis de lancer de gros travaux de rénovation.
La parole des électeurs de Denain avec vous, Franck Hanson, William Galibert. Vous suivez ce déplacement d'Emmanuel Macron et ce déplacement, c'est le premier donc d'une longue série. Le président candidat a clairement décidé d'occuper le terrain dans cet entre-deux-tours.
Oui, c'est ça. En 2017, il avait fêté sa qualification au second tour dans une brasserie chic, la Rotonde, vous en souvenez, avec ses proches. Et puis, il a vite disparu des radars pendant 48 heures. On va dire qu'il a appris de ses erreurs. Cette fois, ça sera tout le contraire. Déplacement à tout va. Ce matin donc à Denain, cet après-midi à Carvin, c'est près d'ici, ce soir à Lens. Demain dans le Grand Est avec passage par Strasbourg, jeudi peut-être au Havre chez Édouard Philippe, ce week-end à Marseille pour un grand meeting. Être partout parce qu'il faut convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou de Valérie Pécresse de ne pas choisir Marine Le Pen et de ne pas s'abstenir dans 15 jours. Il y a du boulot et ça commence maintenant.
William Galibert en direct de Denain dans le Nord pour RTL.
Marine Le Pen est arrivée ce matin à son QG.
Je suis très sereine et très confiante.
Pas de déplacement pour ce premier jour?
On verra.
on verra, disait-elle ce matin à 10h. Et bien depuis, c'est tranché. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Marine Le Pen ira cet après-midi dans Lyon.
Oui, rendez-vous chez un agriculteur céréalier à Torigny-sur-Oreuse. Déplacement dégainé en catastrophe. Pour ne pas laisser Emmanuel Macron faire campagne tout seul aujourd'hui, dixit un élu, et sur ses terres à elle, en plus à Denain, en plein bassin minier. Car pour l'instant, c'est vrai, on ne peut pas dire que l'agenda de Marine Le Pen soit surchargé. La candidate a prévu de se ménager, et elle le dit elle-même, je ne vais pas recommencer les sottises de 2017, où elle était arrivée éreintée au débat de l'entre-deux-tours. Je n'irai pas la veille au soir dans une cave pour voir une association de 10 personnes. Dans la même idée, la candidate n'a à ce stade pas prévu de faire un Whirlpool bis, hein, son déplacement phare de l'entre-deux-tours en 2017. Ça ferait réchauffer, dixit un cadre. On a passé une campagne de buzz et on ne va pas commencer maintenant. À la place, Marine Le Pen va garder son cap. Ultra-proximité, pouvoir d'achat, martelé sur la retraite à 62 ans pour parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon et mettre en sourdine les thèmes repoussoirs pour la gauche, comme l'islam ou l'immigration.
Explication signée Marie Mollet. Il y en a un qui a suivi cette soirée avec une attention toute particulière, c'est Jean-Marie Le Pen. Gauthier de Lombugard était à ses côtés hier soir pour RTL à l'annonce des résultats.
Au-delà du grand portail en fer forgé vert, l'un des Dobermann monte la garde, les oreilles dressées. À l'intérieur, les statuettes de Jeanne d'Arc sont partout.
Bonjour messieurs.
Il est 20h07, le patriarche de la maison frontiste arbore un large sourire.
Ma salle, mon bureau préféré.
Un mug, caricature de Barack Obama avec un bonnet I love Moscou, trône sur son bureau. Le journal d'extrême droite Minute est posé sur la table.
Marine Le Pen obtient un résultat remarquable qui fait d'elle le challenger naturel, mais à mon avis, la future présidente de la République.
L'époque où il était en conflit avec sa fille lui paraît bien loin.
Les différends font partie des règles de la vie. Moi, en tout cas, il n'y a absolument aucun problème. D'ailleurs, j'avais demandé que l'on vote pour Marine. Elle sait ce que je pense et que je l'estime pour un certain nombre d'autres candidats, en particulier Éric Zemmour.
C'est la troisième fois que nous sommes au second tour, se gargarise Jean-Marie Le Pen. Cette fois-ci,
pas Macron, pas deux fois.
C'est la bonne, assure celui qui fêtera bientôt ses 94 ans.
Reportage cynique, Gauthier de Lombugard pour RTL.
Toute autre ambiance du côté des Républicains.
Avec moins de 5% des voix, la campagne de Valérie Pécresse ne sera remboursée qu'à hauteur de 800 000 euros. Elle lance donc un appel à l'aide.
La situation financière de ma campagne est désormais critique. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. J'ai besoin de votre aide, d'urgence, d'ici le 15 mai. Il en va de la survie des Républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine.
L'appel de Valérie Pécresse ce matin à son arrivée au siège des Républicains. Bonjour Thomas Després.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour RTL. Il y a, on l'a entendu, l'aspect financier. Il y a aussi l'enjeu politique et plusieurs réunions importantes aujourd'hui.
Oui, parce que tout l'enjeu, c'est de définir quelle sera la ligne des Républicains en vue de ce deuxième tour, avec deux camps qui se font face. Il y a d'abord ceux qui, clairement, ont dit qu'ils voteront pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. C'est le cas de Valérie Pécresse ou encore de Xavier Bertrand ce matin sur notre antenne. Et puis, l'autre ligne, c'est celle qu'incarne Éric Ciotti, en quelque sorte un ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron. En clair, pas de consigne de vote. Des débats internes que doivent trancher les Républicains avant une conférence de presse en tout début d'après-midi. Tenter de dégager une position commune avec peut-être un point de convergence qui semble apparaître, défendu ce matin par un certain Laurent Wauquiez. Nous sommes tous d'accord pour qu'aucune voix n'aille à Marine Le Pen, a-t-il dit en comité stratégique, sans pour autant appeler clairement à voter pour Emmanuel Macron.
Thomas Després en direct du siège des Républicains.
Lui est clairement le troisième homme de ce scrutin, Jean-Luc Mélenchon.
500 000 voix, hein, seulement le sépare de Marine Le Pen et du second tour. Le candidat de la France Insoumise, majoritaire chez les jeunes, plus d'un tiers des 18-34 ans ont voté pour lui hier. C'est dans les grandes villes et en Ile-de-France qu'il réalise ses meilleurs scores, plus de 61% à Saint-Denis, presque 4 fois plus qu'Emmanuel Macron qui arrive là-bas deuxième. Marie-Bénédicte Allaire, quelle va être leur attitude à ces électeurs au second tour ?
Eh bien, dans le centre de Saint-Denis, quand je demande à Naïma et Nouza, deux assistantes maternelles, ce qu'elles feront au second tour, elles éclatent de rire.
Bah, on ne va pas voter Marine Le Pen. Elle va nous dire enlever le voile.
C'est pas la même chose. Elle va vraiment détruire le pays. On n'a pas le choix. On est obligé de mettre Macron parce qu'il faut mettre Macron.
Même choix chez Monique, encore plus fataliste.
Comme je vote contre Marine Le Pen, je vais voter Macron. Qu'est-ce que vous voulez, puisque les votes blancs ne sont pas comptabilisés. C'est pas que ça me plaît, c'est comme ça.
Ici, le vote Macron au second tour ne va pas de soi. Pierre regardera les sondages.
Ça me fait un peu dégobiller d'avoir à choisir entre la peste et le choléra, mais je pense que quand même, il faudra faire barrage. Si c'est 51-49, j'irai, mais si c'est 54-46, j'irai pas.
Samir et Vadira iront bien au bureau de vote le 24 avril, oui, mais...
On ne va pas donner notre voix à Le Pen. Il y a une frontière qu'on ne franchira jamais, c'est la frontière de l'extrême droite. Mais on ne pense pas qu'on va mettre Macron dans ça, non. La retraite à 65 ans, il est en train de faire une politique de droite, clairement.
Ils mettront donc un bulletin blanc pour traduire leur insatisfaction.
Marie-Bénédicte Ellera à Saint-Denis pour RTL. On va continuer bien sûr à analyser tous ces résultats et à se projeter. Avant cela, le reste de l'actualité. Les complices d'Ivan Colonna en route pour la Corse, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, sont en train d'être transférés vers la prison de Borgo. Le gouvernement s'y était engagé, Anne Le Hénaf.
Oui, après l'agression d'Ivan Colonna début mars, le Premier ministre a levé leur statut de DPS, détenus particulièrement signalés, qui empêchaient leur transfert en Corse. Les deux sexagénaires, condamnés à la perpétuité pour leur rôle dans l'assassinat du préfet Erignac, purgeaient depuis plus de 20 ans leur peine dans différentes prisons du continent. Là, ils étaient à Poissy, dans les Yvelines. Ils demandaient leur transfert en Corse pour pouvoir voir leurs proches et leurs familles, qui devaient prendre l'avion pour quelques heures de parloir. Cette requête était soutenue par beaucoup de Corses, beaucoup d'élus corses. Les deux hommes, qui sont libérables depuis 5 ans, ont tous les deux fait des demandes d'aménagement de peine, un régime de semi-liberté qui leur permettrait de dormir en prison et de travailler dehors le jour. Alain Ferrandi sera fixé dans 10 jours, Alessandri dans un mois.
Anne Le Hénaf du service police-justice de RTL. Et puis les ministres des Affaires étrangères de l'Union sont réunis aujourd'hui à Bruxelles. Il s'agit d'entériner les nouvelles sanctions contre la Russie adoptées la semaine dernière par le Parlement européen.
Retour sur les résultats d'hier, les records, les pires scores. On vous emmène dans les entrailles du scrutin dans une seconde.
RTL Midi. RTL Midi. Spécial présidentiel.
Et au lendemain de ce premier tour de la présidentielle, on continue sur RTL à scruter, à analyser les résultats avec nous. Vincent Derosier du service politique de RTL. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Et Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de l'Institut Harris Interactive. Bonjour.
Bonjour.
Vincent, vous vous êtes plongé dans les entrailles de ces résultats, les meilleurs scores, les records, les pires aussi. Déjà, est-ce que les trois premiers du scrutin ont fait mieux qu'en 2017 en termes de voix?
Oui, la réponse est oui. Emmanuel Macron, 904 000 voix de mieux que la dernière fois. Et le dernier à avoir fait aussi bien, c'était François Mitterrand en 1988. Marine Le Pen, 431 000 voix de plus. Jean-Luc Mélenchon, 545 000 voix de plus. Est-ce que c'est normal, Jean-Daniel Lévy, ça ?
Oui, c'est normal parce qu'en fait, on a aujourd'hui une focalisation autour de trois candidats principaux. Ce n'est pas lié à la participation, hein. C'est lié en fait à une attitude globale qu'on a pu avoir de la part des Français qui se sont dit, tiens, il y a une forme de vote utile qui va s'opérer. Et donc, c'est trois projets clairs, trois personnalités qui étaient clairement identifiées et qui ont pu bénéficier du vote de personnes qui n'adhéraient pas forcément en totalité à leurs propos, mais qui se sont dit que c'était la meilleure manière de les qualifier pour le deuxième tour de la présidentielle.
Mais ça, c'est du jamais vu sous la Ve République que trois candidats représente plus de 70% des suffrages.
Non, c'est jamais vu. Puis c'est jamais vu que le quatrième atteigne à peine les 7%.
Surtout avec 12 candidats.
Surtout avec une offre qui est une offre aussi importante que celle-là, effectivement.
Alors on va regarder, Vincent, candidat par candidat. Emmanuel Macron, fort dans l'ouest de la France et sur ses terres.
Ben non, justement, à Amiens, sa ville de naissance, Jean-Luc Mélenchon lui vole la vedette d'une courte tête. 31% des voix contre 29,95%. À Prades, tiens, chez Jean Castex, eh ben, toujours pas. C'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête avec 27% des voix. Petit lot de consolation, le Touquet, là où le président vote. Il arrive en tête avec 55% des voix. Mais petite surprise, son dauphin s'appelle Éric Zemmour avec un peu plus de 11% des voix.
Valérie Pécresse, ça donne quoi ?
Alors, une catastrophe industrielle, 40 000 voix de moins que Nicolas Dupont-Aignan en 2017. À Versailles, elle est quatrième, 10 voix de moins que Jean-Luc Mélenchon à Versailles. À Vélizy, son fief dans les Yvelines, Emmanuel Macron premier, Jean-Luc Mélenchon deuxième, elle est quatrième avec 11% des voix. Et en Île-de-France, sa région, elle se classe là aussi cinquième avec 6% des voix.
même derrière Éric Zemmour.
Anne Hidalgo bat aussi des records.
Deux, dans la même soirée, elle réalise le plus mauvais score d'un socialiste depuis la création du parti. Pire, la maire de Paris ne recueille même pas 23 000 voix dans sa ville. Ça représente un peu plus de 2%. À titre de comparaison, Benoît Hamon avait fait 10% en 2017 avec 110 000 voix, 5 fois de plus.
Elle avait fait plus de 200 000 voix, si je ne me trompe pas, à l'élection municipale. Donc ça veut dire 10 fois moins dans le cadre de cette présidentielle.
10 fois moins en très peu de temps. Jean-Luc Mélenchon, vous nous confirmez, Jean-Daniel, il fait une grosse percée dans les villes.
Ah, il fait une très grosse percée dans les villes. Et il arrive d'ailleurs à agglomérer toute une partie de l'électorat de gauche. C'est un peu comme si le reste de la gauche avait quasiment disparu et s'était reporté en faveur de Jean-Luc Mélenchon, même en Île-de-France. Et il arrive en première position, alors qu'on sait qu'au cours des dernières élections régionales, par exemple, c'est Valérie Pécresse qui l'avait emporté.
Il est en tête à Nantes, il est en tête à Lille, il est en tête à Marseille. Des villes en plus, parfois de droite.
Oui, Marseille, on s'y attendait un peu.
Et des villes symboliques à droite, à Meaux, chez Jean-François Copé, il est en tête avec 6000 voix de plus que Valérie Pécresse, à Provins, chez Christian Jacob, le patron du parti, avec 1000 voix, et puis à Tourcoing, la ville de Gérald Darmanin.
Il fait aussi des scores impressionnants, des gros scores.
Oui, des gros scores dans les communes de plus de 5000 et 10 000 habitants, des scores de plus de 60, voire 70%. Il n'y a que lui qui réalise ça. Et puis le record absolu, il est pour lui aussi le record absolu de l'élection, 91% pour Jean-Luc Mélenchon dans la petite commune d'Eour, dans les Hautes-Alpes. Il obtient 71 des 78 suffrages exprimés.
Alors c'est une toute petite commune.
Toute petite
mais enfin,
ville,
quand même,
mais c'est un bon record.
Jean-Daniel, vous avez comme ça en mémoire 91%, c'est énorme pour
oui,
un candidat.
Ça arrive parfois. Ça arrive quand même parfois qu'il puisse y avoir un candidat très profondément implanté ou avec une situation locale qui fait qu'on a la quasi-totalité des électeurs qui se ruent, entre guillemets, vers un seul candidat.
Le carton de Jean Lassalle en Corse.
Oui, 10,4% des voix, bah c'est 7 fois plus que c'est un score national avec 15 000 voix.
Les deux finalistes aussi font des records.
Oui, alors pour Marine Le Pen, à Hardecourt-au-Bois dans la Somme, 78% des voix. Pour Emmanuel Macron, à Bigorneau, comme le coquillage en Haute-Corse, avec 77% des 71 suffrages exprimés. C'est souvent des petites villes hein, là où il y a des records.
Et les autres?
Alors Yannick Jadot cartonne à Piazzali en Corse, comme le communiste Fabien Roussel à Isolaccio di Fiumorbo, désolé pour la prononciation. Et la candidate Valérie Pécresse, elle c'est à Rusio en Corse également, à Morlin en Moselle, Nicolas Dupont-Aignan devance Jean Lassalle et Éric Zemmour. Et puis Éric Zemmour justement, il est le chouchou des habitants de Cuiry-les-Iviers dans l'Aisne, où il a été choisi par près de 50% des votants.
Et dernière question, la championne de l'abstention.
Alors c'est la commune de Grand-Sentier en Guyane, 86% des inscrits ont boudé le premier tour.
Le vote utile a joué à fond, notamment à droite, mais à gauche, il n'a pas complètement joué. Peut-être parce que personne n'avait imaginé que Jean-Luc Mélenchon serait si haut. Si les sondeurs avaient mis Jean-Luc Mélenchon à 20 ou 21, est-ce qu'il ne serait pas ce matin au second tour, parce que précisément ceux qui étaient tentés par Fabien Roussel, par Anne Hidalgo ou par Yannick Jadot auraient joué ce vote utile pour Jean-Luc Mélenchon.
Ce qui est certain, c'est que si jamais il y avait eu effectivement bien plus d'intentions de vote quelques jours plus tôt en faveur de Jean-Luc Mélenchon, la dynamique se serait accélérée. On voyait bien d'ailleurs que ces électeurs qui avaient voté hier pour Yannick Jadot, pour Anne Hidalgo et pour partie pour Fabien Roussel, se posaient vraiment la question de leur vote et faisaient partie des électorats qui étaient les plus hésitants entre une forme de vote de conviction pour faire vite, c'est-à-dire je suis favorable à l'écologie, je suis favorable à une autre idée de la gauche ou je suis favorable à mon idée qui est le Parti Socialiste, et puis un vote qui est un vote utile, pas forcément uniquement pour Jean-Luc Mélenchon, mais ils ont été sensibles à un argument qui était de dire il faut éviter d'avoir Marine Le Pen au deuxième tour, et derrière la présence de Marine Le Pen, la possibilité qu'il puisse y avoir un débat, non pas uniquement sur la question migratoire, mais également sur la question sociale.
Marine Le Pen peut-elle gagner ? On va en parler dans une seconde. Merci à tous les deux, et on poursuit la conversation.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes.
RTL Midi. Spécial présidentiel.
Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Dans cette campagne, j'ai décidé d'être libre des attaches partisanes pour être au service de tous et de m'adresser directement à vous. Je continuerai à le faire pour être, si vous le décidez, au lendemain du second tour, sans exclusive aucune, la présidente de tous les Français.
Et c'était hier soir vers 20h30, à peine les résultats connus. Marine Le Pen lance un appel à tous ceux qui n'ont pas voté Emmanuel Macron. Elle, comme lui, font mieux qu'il y a 5 ans, mais peut-elle pour autant l'emporter? C'est le deuxième débat de RTL Midi. Jean-Daniel Lévy est toujours avec nous. À vos côtés, Marie Mollet du service politique de RTL. Rebonjour Marie.
Bonjour.
Jean-Daniel, d'abord, quand on regarde les résultats d'hier, est-ce que c'est mathématiquement possible pour Marine Le Pen, même si bien sûr la politique, ce n'est pas des mathématiques?
Mais c'est mathématiquement et politiquement possible, sur les deux aspects. C'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui les reports de vote qui peuvent exister de la part de l'électorat d'Éric Zemmour, de la part de l'électorat de Nicolas Dupont-Aignan, de la part de l'électorat également de Jean Lassalle, même s'il s'en défend, en fait, qui a plutôt tendance à aller de ce côté-là, et qui viennent alimenter clairement et de manière quasi fluide le vote en faveur de Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Pour les autres types d'électorats, ça coince un petit peu plus, que ce soit dû notamment de la part de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qui pourrait, entre guillemets, apporter les plus gros bataillons à l'égard de la présidente ou l'ex-présidente du Rassemblement National.
Marie, l'une des différences avec 2017, justement, c'est cette réserve de voix pour Marine Le Pen.
Du côté d'Éric Zemmour. Et c'est la première fois, en fait, de l'histoire du Front National qu'il y a une réserve de voix quasi naturelle, à près de 7%, même si le chiffre est plus bas qu'espéré et que, paradoxalement, la déconfiture d'Éric Zemmour n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Marine Le Pen, parce que ça lui donne moins de souffle entre le premier et le second tour. Ce qui est très clair dans le camp Le Pen aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas question de nouer une alliance formalisée avec Reconquête ou Éric Zemmour.
Pas de s'afficher avec lui, par exemple.
Alors, en tout cas, pas sur la scène d'un meeting et pas de formaliser une alliance. D'abord parce qu'il y a un risque de se rediaboliser d'un coup d'un seul et de former le tandem d'extrême droite Le Pen-Zemmour dont parlait Emmanuel Macron. Et puis parce que Marine Le Pen, elle se souvient de 2017. Elle se souvient de l'alliance avec Nicolas Dupont-Aignan. Un peu à la va-vite, un peu au chausse-pied. À ce moment-là, Marine Le Pen fait des concessions programmatiques en partant sur l'idée d'une monnaie de transition d'écu. Plus personne n'y comprend rien. Pas même Marine Le Pen, et à ce moment-là, ils se prennent les pieds dans le tapis. En revanche, ce à quoi on peut assister, c'est des ralliements ponctuels de personnalités. On entend parler, par exemple, de Guillaume Pelletier, de Stanislas Rigaud, qui pourraient éventuellement s'afficher ponctuellement. En revanche, il y a une limite, c'est que tous les traîtres, les déserteurs du camp RN, pour eux, c'est un aller sans retour. Marine Le Pen a été très très claire là-dessus.
Jean-Daniel, vous parliez des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Hier, Jean-Luc Mélenchon l'a répété à plusieurs reprises, hein, pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen. Est-ce que ça fonctionne encore, ces consignes de vote, ou c'est d'un autre temps?
Ça fonctionne très peu. Ça fonctionne, en fait, on voit en fait qu'on a des prises de décision qui sont initiales, effectuées de la part des citoyens, et lorsqu'on les interroge, ces mêmes citoyens, quelques jours ou quelques heures après la déclaration des responsables politiques, globalement, on ne voit que très peu de changements. Ils se forgent leur avis, souvent même avant qu'il y ait une prise de position officielle. Je ne dis pas que ce n'est pas important qu'il puisse y avoir des orientations qui soient indiquées, parce que ça permet de rappeler les valeurs qui peuvent être celles des formations politiques, mais l'effet politique, au final, apparaît comme étant relativement faible.
Pour que Marine Le Pen soit élue, il faut que des gens de gauche ou vote pour Marine Le Pen ou ne se déplace pas pour voter pour Emmanuel Macron. Nous sommes d'accord.
C'est surtout le deuxième aspect.
Alors, c'est intéressant, ce report des voix. Est-ce que vous savez déjà quelques éléments, par exemple sur Jean-Luc Mélenchon? Les 21,9% de Jean-Luc Mélenchon, comment peut-on les ventiler?
On peut les ventiler autour de trois paquets, entre guillemets, inégaux. Le premier gros paquet, c'est le paquet qui dit « je m'abstiendrai ». Ou je voterai blanc ou nul, et c'est de l'ordre de 45% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième paquet, c'est ceux qui déclarent qu'ils voteraient en faveur d'Emmanuel Macron. C'est un tiers, et si on veut être très précis, 34% qui nous déclarent qu'ils ont l'intention de voter en faveur d'Emmanuel Macron.
Au nom du Front Républicain, cela.
Au nom, alors il y a deux aspects.
Ils n'adhèrent pas, mais ils ne veulent pas de Marine Le Pen.
Ils n'adhèrent pas, et en fait, dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, vous avez une dimension qui est composite. C'est plutôt la partie, en gros, centriste ou sociale démocrate qui s'est retrouvé derrière Jean-Luc Mélenchon et qui globalement n'a pas le sentiment de faire un effort trop important en votant en faveur d'Emmanuel Macron.
Et on a entendu tout à l'heure les témoignages dans les banlieues de ces jeunes femmes, manifestement qui étaient musulmanes, qui disent « moi je veux garder mon voile, donc je voterai contre Marine Le Pen ».
Ça peut jouer effectivement de cette partie-là. Et puis le troisième
aspect... Alors qu'elles avaient voté évidemment... Jean-Luc Mélenchon.
Absolument. Et le troisième volet, c'est un petit quart de la population qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon, 21% si on veut être précis, qui déclare qu'il votera en faveur de Marine Le Pen. Pas forcément parce qu'il se rallie aux questions relatives à la sécurité ou à l'immigration, mais que là, pour le coup, c'est les aspects sociaux qui jouent, et ceux qui ont été portés par Marine Le Pen, mais également ceux qui ont été portés par Emmanuel Macron, à savoir la retraite à 65 ans, le débat sur le RSA et puis également la manière dont Emmanuel Macron a parlé de la rémunération des enseignants.
Marie, juste encore un mot, vous suivez cette campagne de Marine Le Pen, sa stratégie, vous me disiez tout à l'heure, ça ne va pas être qu'on vote pour elle, mais qu'on ne vote pas contre elle.
Alors, pour en tout cas une partie des électeurs de gauche, c'est le cas. On l'a très bien vu les dernières semaines de campagne où elle a arrêter de parler d'islam et d'immigration, c'est-à-dire les thèmes repoussoirs pour la gauche, en se retranchant derrière un thème qui est beaucoup plus consensuel, qui est le pouvoir d'achat. Elle va continuer sur cette veine-là, et elle va par ailleurs marteler sur la question des retraites, parce que le camp Le Pen voit là un thème clivant, en disant voilà, Emmanuel Macron nous a fait un cadeau en parlant de la retraite à 65 ans, et nous on va essayer de convaincre tous ceux qui veulent partir à la retraite plus tôt. Et donc c'est ainsi qu'elle essaie aussi d'obtenir un vote d'adhésion pour le second tour, ce que disait Jean-Daniel Lévy chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
Marine Le Pen peut-elle gagner? Il faudra attendre également le débat, car ce débat, peut-être ce coup-ci, sera vraiment décisif. Il est programmé le 20 avril, le mercredi 20 avril au soir. Merci Jean-Daniel Lévy, merci à Marie Mollet. Place aux auditeurs maintenant qui vont pouvoir commenter la soirée d'hier soir. À tout de suite. RTL.